Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique de Conférence Analyste. Maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Frédéric Moine, CEO. C'est à vous, monsieur.
Oui, bonjour à tous. Merci de prendre quelques instants pour que nous puissions, Julien Gauthier et moi-même, commenter le chiffre d'affaires du premier trimestre, que d'habitude nous ne commentons pas, mais nous avons souhaité vous réunir pour que, en trois temps, Julien puisse vous présenter de façon plus en détail le bridge du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. Puis, je reprendrai la parole pour vous parler des impacts du Covid sur nos activités et nos développements. Et Julien terminera par un point sur la situation de trésorerie avant la conclusion et vos éventuelles questions. Voilà, un tout petit mot d'introduction pour vous dire que notre chiffre d'affaires, comme vous l'aurez constaté, est très bon. Il est en hausse de 13% sur le premier trimestre 2020 par rapport à l'année dernière. Et je laisse tout de suite, donc cela témoigne de la résilience du modèle économique du groupe et du bon fonctionnement de nos centrales, mais je laisse la parole à Julien pour qu'il vous commente en détail les briques constitutives de cette évolution. Merci.
Bonjour à tous. Donc, notre chiffre d'affaires, effectivement, est en hausse de 13%. Il s'établit à 130,9 millions d'euros au premier trimestre 2021, comparé à 115,9 l'année dernière. On n'a pas sur le trimestre d'impact du Covid, au contraire, et je vais vous détailler les quelques grandes variations. Alors, la première variation est une variation négative de moins 4,2 millions d'euros qui est liée au prix des combustibles. Il ne vous aura pas échappé que le prix des matières premières et du pétrole, évidemment, mais également, et c'est ce qui nous concerne, du charbon, ont fortement baissé ces dernières semaines, qui explique cet effet prix négatif de 4 millions d'euros, de 4,2 millions d'euros sur le trimestre. Grâce à nos clauses et à nos contrats, on est en passerose sur les matières premières, on ne retrouve pas cet effet au niveau de l'EBITDA et de la rentabilité. Néanmoins, il peut y avoir des effets stocks lorsqu'il y a des variations, et c'est le cas en ce moment aussi brutal. Si on regarde les autres grandes variations, on a plus de 20,1 millions d'euros qui est lié à l'activité Biomasse Thermique France et qui se décompose comme suit. Plus 4,4 d'évolution de nos primes fixes. Vous vous souvenez que l'on a réceptionné et finalisé les travaux liés à la mise en conformité IED sur deux de nos centrales l'année 2019 en Guadeloupe et à La Réunion sur Albioma Bois-Rouge. Dans le cadre des avenants qui ont été signés avec EDF, on a des augmentations de prix fixes. Hein, c'est ce qui explique cette brique de croissance. Deuxième élément de variation sur l'activité Thermi France, c'est les bonus-malus en hausse de plus de 3,7 millions d'euros. Alors ça traduit une très bonne disponibilité des installations sur le premier trimestre. Et en plus de cela, on a bénéficié, et ça c'est un effet positif de la crise, on a décalé les arrêts prévus sur Albioma Le Golle et Albioma Le Moule, donc une centrale à La Réunion et une en Guadeloupe, pour être disponible sur le réseau et assurer la sécurité du cerveau et des services publics. Donc on fera ces arrêts un peu plus tard, probablement réduits. Donc c'est un effet d'aubaine, hein. On est très bien sur le premier trimestre, ça représente plus de 2 millions d'euros. Évidemment, ces arrêts auront lieu un peu plus tard dans l'année. Et enfin, sur l'activité Biomasse Thermique France, le dernier effet positif, c'est l'augmentation de la partie variable de notre chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros. Il y a un effet volume, hein, on a plus produit sur ce trimestre que l'année passée. Et il y a la revalorisation du prix variable dans le cadre des avenants signés sur les contrats IED. Sur notre activité solaire, notre chiffre d'affaires enregistre une légère baisse de 900 000 euros, compte tenu d'un ensoleillement un petit peu inférieur sur l'océan Indien à ce que l'on escomptait à l'année dernière. Le Brésil est en croissance de 900 000 euros, malgré un effet de change négatif, hein, qui impacte négativement de 500 000 euros le chiffre d'affaires. Et c'est compensé par un effet volume, en particulier grâce à un très bon premier trimestre sur Codora qui avait des stocks bagasses. Et je rappelle que le premier trimestre au Brésil est consacré à l'intercampagne et à la maintenance. La campagne sucrière a repris depuis quelques jours sur nos trois sites. Grâce au stock que l'on avait sur Codora, on a pu réduire au minimum la maintenance qui a duré à peu près un mois. Le reste du temps, on a produit sur le trimestre. Voilà. Et donc, notre chiffre d'affaires final est de 130,9 millions d'euros, comme je l'ai indiqué, en hausse de 13%. Et à ce jour, il n'y avait pas d'impact ou d'effet négatif lié au Covid. Je propose de repasser la parole à Frédéric. Allô?
Ici l'opératrice, je vais vérifier s'il est toujours connecté. Un instant. Merci l'opératrice. Monsieur Moine, vérifiez que vous n'avez pas coupé le son. Alors, il paraît que Frédéric est connecté, mais on ne l'entend pas. Alors, je suggère que vous passez
Dans l'intervenant. Dans ce cas-là, je vais remplacer Frédéric le temps qu'il se reconnecte et je vais commencer. Je vais commencer à détailler les effets et les impacts attendus du Covid-19. Donc, comme vous avez pu le constater sur le premier trimestre, hein, il n'y a pas d'impact économique. Par contre, on a fait une analyse assez exhaustive des impacts possibles pour la suite de 2020 et à moyen terme, et par activité. Donc, si on regarde l'activité Thermique France, le premier impact…
Vous m'entendez?
Frédéric. Oui, on t'entend. Donc, si tu veux, j'étais en train de commencer à discuter des impacts Covid-19 et j'en suis au tout début, donc je te propose de reprendre la main. En attaquant avec l'activité Thermique France.
Je suis navré, on a un petit souci de système manifestement. Donc on va couvrir les quatre thématiques Thermique France, Brésil, Solaire, Holding. Très rapidement sur le Thermique France, l'impact le plus significatif du Covid-19 à ce stade, c'est la suspension des travaux de conversion de notre tranche 3 du moule situé en Guadeloupe. Vous savez que nous avons commencé ces travaux depuis le 1er mars 2020 et que nous sommes indemnisés pour une durée de 4 mois d'arrêt. Les travaux vont très certainement, du fait de la suspension Covid, s'échelonner sur une durée supérieure à 4 mois. Et donc, c'est ce décalage de la date de remise en service de la tranche 3 qui va nous impacter. Nous avons... comme vous, certains d'entre vous le savent, notifier EDF ceci en envoyant une notification de force majeure. Et à ce jour, compte tenu de l'incertitude sur les stratégies de déconfinement et notamment le déconfinement dans les DOM, nous n'avons pas de visibilité absolue sur notre capacité à reprendre les travaux rapidement en faisant appel à des entreprises extérieures dans des délais qui soient extrêmement courts. Deuxième effet Covid, beaucoup moins important, Julien en a parlé, c'est la réduction ou le report de nos arrêts de tranche prévus au premier semestre 2020. Alors, il y a un effet positif qui d'ailleurs transparaît dans notre chiffre d'affaires est directement lié au fait que quand on reporte un arrêt, eh bien, pendant la durée supposée d'arrêt qui n'a pas lieu, l'usine tourne et donc génère du chiffre d'affaires. Et comme Julien l'a dit également, cet effet n'est que temporaire puisque l'arrêt finira bien par avoir lieu à un autre moment de l'année. Il y a un effet négatif qu'il faut garder en tête, même si à ce stade il reste modéré, qui est lié au fait que dans la mesure où les arrêts ne sont pas faits, on majore un petit peu le risque de fortuit, donc d'incident pour les mois qui s'ouvrent, hein, des usines dont les maintenances ne sont pas réalisées, c'est moins agréable que quand on le fait dans les calendriers prévus. Troisième élément également intégré d'ores et déjà à partir du premier trimestre, mais qui pourrait continuer, la baisse du prix du charbon avec un risque d'effet stock négatif. Et puis quatrième élément qui est plus moyen terme, qui n'impactera pas 2020, c'est le décalage potentiel du calendrier d'obtention des autorisations ainsi que du calendrier des délibérations de la Commission de régulation de l'énergie sur notre programme de conversion. L'impact, je l'ai dit, ne sera pas court terme, mais il pourrait être moyen terme sur nos objectifs de conversion intégrale avec un objectif que vous connaissez tous de 80% fixé à horizon, 80% de renouvelables fixé à horizon 2023, qui présupposait le respect d'un calendrier assez ambitieux de conversion de toutes nos tranches thermiques. Et sur ce sujet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est par exemple que lorsque la commission de régulation ou l'administration prend 3, 4 ou 5 mois de retard sur une délibération ou l'octroi d'un permis de construire, cela peut se translater pour nous en un an de décalage, compte tenu des fenêtres de tir extrêmement réduites que nous devons observer lorsque nous arrêtons nos tranches, et compte tenu du poids respectif de ces tranches sur chacun des réseaux. Je rappelle, on produit environ 45% pré-crise, donc probablement plus proche de 50% aujourd'hui avec la baisse de la consommation dans les zones. Et donc, on ne peut pas arrêter nos centrales quand on le souhaite. Il faut prévenir le gestionnaire de réseau longtemps à l'avance, tenir compte des campagne sucrière qui neutralise la moitié de l'année et tenir compte aussi du calendrier de maintenance des outils d'EDF. Ceci limite les fenêtres de tir et font que pour 3 ou 4 mois de décalage dans une obtention d'autorisation, on peut se retrouver à devoir décaler d'un an la réalisation de l'opération de conversion de la tranche considérée. Voilà pour l'impact du Covid sur notre périmètre thermique France. Vous pouvez constater que d'un point de vue chiffré, il est assez marginal, assez modéré. J'ajoute que nous avons activé tous nos plans de continuité d'activité sur la totalité de nos sites, qui se traduisent principalement par deux priorités. Une priorité numéro un qui est la sécurité de nos collaborateurs et donc la mise en place des mesures barrières et de distanciation sociale, désinfection des salles de commande, etc., etc. Et la deuxième priorité qui va évidemment à la continuité de la production compte tenu du poids de nos outils sur les réseaux. Ces plans de continuité pourront également avoir un coût que nous estimons marginal à ce stade. Au Brésil, le principal impact qu'il faut avoir en tête est plutôt lié au contexte macro, à la forte baisse des prix de l'éthanol notamment, les prix du sucre étaient déjà eux-mêmes déprimés, et donc à la fragilisation de nos contreparties. Donc l'impact que nous voyons au Brésil à ce stade, c'est un impact sur nos partenaires sucriers, avec un risque de sous-investissement notamment dans la sole canière pour ceux d'entre eux qui étaient déjà fragilisés. Je pense à Rio Pardo notamment, même si Rio Pardo a pu assainir son bilan avant la crise Covid et à ce jour, sachez que la campagne sucrière à l'heure où je parle a commencé au Brésil sur toutes nos entités et d'un point de vue opérationnel, toutes les entités centrales thermiques ou sucreries sont en fonctionnement. Donc nous n'anticipons pas de problème très significatif au Brésil. J'ajoute que le Brésil représente 5% du chiffre d'affaires du groupe. Activité solaire, l'essentiel des retards, l'essentiel de l'impact Covid viendra des retards de construction de nos nouvelles centrales photovoltaïques, peu d'impact sur l'année 2020 et plus moyen terme sur l'impact sera lié à un décalage des fenêtres d'appel d'offres, notamment de la Commission de régulation de l'énergie qui a déjà annoncé que les fenêtres initialement prévues sur le mois de juin, par exemple, allaient être décalées de 3 mois. Donc, des chantiers à l'arrêt, et la possibilité de regarnir notre portefeuille avec probablement un peu plus de décalage, donc un peu plus de temps dont on aura besoin. J'ajoute qu'on a été lauréat de 17 MW sur le premier trimestre dans nos zones, les ZNI, les zones non interconnectées, à la faveur de l'appel d'offres qui avait été lancé l'année dernière et dont les résultats ont été annoncés par le ministère de la Transition il y a peu de temps. On avait fait un communiqué sur le sujet et vous avez vu qu'on était dans le peloton de tête des lauréats dans les zones, ce qui témoigne de notre compétitivité et de la pertinence de notre positionnement. Et enfin, pour être complet, l'impact de la crise Covid sur la holding et principalement sur la capacité de la holding à se financer ou se refinancer, aujourd'hui, il est nul. À moyen terme, vous savez qu'on a un euro PP qui arrive à échéance en fin d'année. Je laisserai Julien compléter. La crise Covid pourrait entraîner une dégradation des conditions de refinancement de cet euro PP par rapport aux conditions qu'on pouvait viser avant la crise. Néanmoins, et ce sera mon mot de conclusion sur cet impact Covid, je pense que la solidité du bilan d'Albioma, la qualité de ses résultats, de ses perspectives, la solidité de son modèle fait que Albioma devrait sortir plutôt renforcé de cette crise par rapport à d'autres, j'entends, hein, pas intrinsèquement, mais par rapport à d'autres, et Albioma ne devrait pas se trouver dans une situation difficile de lever de financement pour refinancer ses échéances. Voilà, je vais laisser la parole à Julien pour qu'il vous fasse justement un point de trésorerie.
Oui, quelques messages sur la trésorerie et notre position de liquidité à l'heure où on vous parle. C'est un sujet important dans cette période. On a un niveau de trésorerie élevé, toujours élevé. C'était le cas en fin d'année où on avait plus de 160 millions de trésorerie. Au 15 avril, on a 119 millions d'euros dans les caisses. On a plus de 75 millions d'euros de lignes court terme disponibles et non tirées. On n'a pas eu besoin de tirer sur nos lignes Revolving Credit Facility et court terme pendant ces dernières semaines. Et on n'a pas eu recours aux prêts garantis par l'État ou à tout autre dispositif mis en place par l'État pendant cette période. On s'attend à voir quelques décalages de décaissement compte tenu des retards pris sur les projets. On a parlé du retard lié au Covid là, sur notre conversion LM3. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, côté cash, c'est que les décaissements auront lieu un peu plus tard. Hein, donc, ça conforte encore notre position de trésorerie. Tous les projets, la conversion d'ALM3, les projets photovoltaïques, hors les projets lauréats du dernier appel d'offres, tous nos projets sont financés avec des engagements fermes de la part de nos partenaires bancaires. Et Frédéric l'a mentionné, on a une échéance de remboursement de 80 millions d'euros le 8 décembre 2020. C'est notre obligation corporate appelée EuroPP. On a deux options, soit on refinance, soit on tirera sur nos lignes court terme pour attendre une période plus favorable si on considère que les conditions de marché sont pas bonnes. Ou éventuellement on remboursera une partie eu égard.
Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre.
Allô?
Oui.
Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va...
Alors, j'ai coupé le son de Madame Sablon. Il paraît que sa ligne était en attente.
Oui, moi aussi, je viens de recevoir un message comme quoi je suis en attente. Décidément, c'est compliqué ce call.
On est toujours en ligne?
Oui, continuez.
Oui, je peux continuer. Donc, pour conclure sur la trésorerie, on a décidé de maintenir notre politique de distribution de dividendes. Donc, le dividende qui sera proposé aux actionnaires et que l'on avait présenté en fin d'année lors de la présentation des résultats annuels sera bien maintenu. Voilà.
Merci Julien. Un dernier mot de conclusion. Comme vous l'aurez compris, l'impact du Covid à ce stade sur nos activités est très marginal. Un élément que l'on a mentionné dans le communiqué de presse, c'est une information publique. On en avait fait état à la faveur de, en tout cas de la nouvelle, on s'y attendait à la faveur de la publication de nos résultats annuels. L'arrêté modifiant les conditions de rémunération des capitaux engagés dans les EDNI a été publié le 12 avril dernier. Il vient abroger l'arrêté de 2006 qui garantissait un taux de 11% sur les capitaux engagés dans les EDNI pour les projets conclus en gré à gré. Donc ce nouvel arrêté de 2020 donne une fourchette de rémunération régionalisée qui va de 7% à 10% dans les DOM classiques, Réunion, Guadeloupe, Martinique, et qui est majoré de 100 points de base, donc de 8 à 11% pour les DOM réputés plus compliqués que sont la Guyane et Mayotte. Cet arrêté n'a pas de portée rétroactive, c'est-à-dire que tout notre stock de projets et de contrats ne sera pas impacté par ces nouvelles conditions tarifaires et ne nous empêche pas de continuer à développer nos projets de conversion qui suivent leur cours, comme je le disais, même si on pense qu'ils ils prendront du retard. Nous savons que les autorités instructrices sont à la manœuvre, nous recevons des questions et nous sommes en relation étroite avec les administrations, notamment à La Réunion, pour le dépôt des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter, qui sont pour l'essentiel à la fois au port et sur le site, d'ores et déjà toutes ou quasiment toutes entre les mains des services instructeurs. Donc malgré le confinement, nous avons trouvé les moyens de faire parvenir des dossiers dématérialisés, de nous adresser à des guichets électroniques pour continuer à développer ces projets. Voilà, je voulais donc terminer sur cette note plutôt positive de développement.
On peut peut-être passer à la session de Q&A. N'hésitez pas à nous poser des questions.
Oui, bien sûr. Donc, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur l'étoile suivie du chiffre 1. Merci de vous assurer que la touche mise en silence de votre téléphone n'est pas activée afin que votre signal soit perçu par notre équipement. Pour rappel, c'est étoile 1 pour poser une question. Alors, nous allons prendre la première question de M. Bastien Jallet d'Aissel. C'est à vous.
Oui, bonjour, monsieur. Désolé si les questions ont déjà été répondues plus tôt, mais j'ai eu des petits problèmes pour me connecter. J'avais des questions d'ordre général. Est-ce que vous pourriez nous donner un commentaire sur les évolutions récentes des prix de l'énergie? Est-ce que vous entrevoyez un retour à la normale bientôt et que c'est seulement conjoncturel ou alors une tendance plutôt longue? Ensuite, je voulais savoir quelle est la part des projets bénéficiant d'un tarif garanti sur le stock actuel d'Albioma. Et enfin, je voulais savoir quel serait l'impact à court terme sur les prix des PPA selon vous, s'ils sont plutôt tirés vers le bas. Je ne sais pas si vous y avez déjà répondu et avance, désolé.
Non, la question n'a pas été soulevée. Pour répondre très directement à votre question, on n'est pas tellement concerné par l'évolution des prix de l'énergie qui joue sur la plateforme européenne continentale, mais qui ne s'applique pas, les mécaniques de marché ne s'appliquent pas dans les zones dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire dans les ZNI, les zones non interconnectées. Donc, pour répondre à votre deuxième question, 100% de notre chiffre d'affaires, ou quasiment 100%, parce qu'il faut faire, il faut exclure le Brésil, ou une partie du Brésil, mais quasi 100% de notre chiffre d'affaires est basé sur des tarifs garantis et des PPA signés en gré à gré, qui ne sont pas remis en cause par les évolutions de marché.
C'est clair, merci beaucoup.
Nous allons prendre la prochaine question de Jean-François Grangon de Odo.
Oui, bonsoir, Jean-François Grangon, Odo BHF. Une première question, j'imagine que la baisse des rémunérations des taux de Rothschild, vous avez dit plusieurs reprises, c'est quelque chose que vous aviez déjà intégré dans vos modèles et par conséquent dans vos projections à moyen terme. C'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué une notification de force majeure pour Albuma Caraïbes. C'est-à-dire que si en fait ce cas de force majeure a été reconnu, vous n'auriez pas à supporter le manque à gagner à compter du mois de juillet, on va dire sur le deuxième semestre de l'année 2020. Et troisième question, quel impact finalement, déjà, est-ce qu'on peut quantifier la baisse de consommation d'électricité dans les DOM, principalement, je crois que la baisse a été moindre qu'en métropole. Et éventuellement, quel impact pour vous ensuite en termes de, en termes d'activité, en termes de production sur la partie variable? Merci.
Frédéric, si tu veux, je prends les deux premières et je te laisserai répondre à la troisième.
Vas-y.
Oui, donc pardon, du coup, j'ai oublié le...
La première question, c'était la baisse de Rothschild.
Oui, sur le Rothschild, pardon. Sur le Rothschild, on a bien intégré depuis quelques années maintenant dans nos business plans à moyen terme, à 5 ans, sur les nouveaux projets, on travaillait déjà sur une base qui n'était plus 11%. Hein, donc, on avait déjà discounté sur les nouveaux projets de quelques points le Rothschild. Alors, là où il faut être attentif, c'est que le Rothschild, c'est les retours sur capitaux engagés avant impôt. Et ce ROCE n'intègre pas les conditions de financement. On bénéficie depuis 2-3 ans de conditions de financement bien meilleures que celles que l'on avait il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, quand on se finance sur un nouveau projet, on arrive sur 20 ans à des taux tout compris de l'ordre de 2%, 1,50 de marge plus un Euribor swappé à 0,50, ça fait aux alentours de 2%. Ça va peut-être augmenter un petit peu avec l'épisode Covid, mais malgré tout, on est bien dans le ça de ce qu'on avait il y a quelques années. Hein, donc, le nouveau ROCE, on l'a intégré. On intègre aussi les nouvelles conditions de financement dans nos modèles.
Hein. D'accord, très bien.
Voilà. Pour ce qui concerne LM3, et la notification de force majeure. Aujourd'hui, on avait prévu un arrêt de 4 mois entre mars et juin. Et pendant cet arrêt, on continuait de toucher la prise fixe historique sur cette centrale. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas pouvoir remettre en service début juillet et que l'on aura quelques mois de retard. Si la force majeure est reconnue, on devrait effectivement normalement continuer à être payé. Par contre, la nouvelle prime fixe que l'on appelle la prime fixe de conversion en lien avec l'investissement de 70 millions d'euros que l'on est en train de réaliser, elle interviendra au moment de la mise en service. Hein. On ne va pas être payé en avance alors que le CAPEX n'est pas reconnu. Donc, sur cette nouvelle prime fixe qui représente quelques millions d'euros, le retard consommera une partie de ce qu'on avait prévu sur l'année 2020.
D'accord.
Et la troisième question sur la baisse de la consommation électrique, oui, Jean-François, les DOM ont connu une baisse de consommation au début plutôt inférieure à celle de la métropole avec un phénomène de report et une forte hausse de consommation d'électricité des ménages et une déformation de la courbe journalière. Ce que l'on constate, c'est que nos moyens continuent d'être appelés quasiment à l'identique par rapport au début de la crise. Donc, on n'a pas marginalement, de baisse de nos taux d'appel.
D'accord.
C'est illustré d'ailleurs par le chiffre que j'ai mentionné, notre chiffre d'affaires variable hein, qui est en hausse de 12 millions d'euros sur le premier trimestre. Ça illustre le fait que notre production et nos volumes ont augmenté. Hein.
D'accord.
Donc si je le dis autrement, on continue à assurer le ruban de base de production d'énergie et ce sont les moteurs fuel qui font la dentelle ou la semi-base qui ont encaissé cette baisse de la demande.
D'accord. Et juste une dernière question. Vous avez évoqué la baisse du prix du charbon avec un effet stock négatif. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là?
Alors, Julien, sur le chiffre d'affaires, l'impact sur notre activité thermique, nos revenus se décomposent en deux. On a une prime fixe qui est indexée à l'inflation, qui est liée à la disponibilité. Celle-ci, si on est disponible, on la touche. La partie variable est liée à la production et est liée à la consommation de matières premières. On refacture à EDF le prix du charbon tel qu'il sort de nos stocks. Donc sur l'année le charbon baisse, le prix du charbon baisse, in fine, on aura moins de chiffre d'affaires puisque plutôt que facturer 100 ou 150 dollars la tonne, on va facturer que 50. Donc ça va diminuer la partie variable de notre chiffre d'affaires. Mais comme on est en pass-through, en termes de coûts, il y a très peu d'effets. Le seul effet, c'est un effet qu'on appelle l'effet stock, qui est la différence à l'instant T entre la valeur du charbon dans nos stocks et la valeur du charbon consommé. Voilà. Du dernier bateau arrivé, pardon. Du dernier bateau arrivé qui est la référence pour la facturation.
Ok, merci.
Merci, nous allons prendre la prochaine question de Clémence Blank de Société Générale. C'est à vous.
Merci, vous m'entendez?
Oui.
Oui.
Oui, parfait. Alors, bonsoir plutôt. J'aurais trois questions. Une première sur la conversion, sur le CAPEX de conversion pour Albioma Caraïbes. Une deuxième sur le programme de conversion pour le GOL. Et plutôt pour Bois Rouge, qui sera la seconde à être probablement convertie. Et enfin, une question plus générale sur votre programme de CAPEX. Première question, vous aviez mentionné au résultat annuel que vous avez investi 20 millions à peu près de CAPEX pour l'aménagement du port pour la conversion d'Albioma Caraïbes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un montant similaire pour Bois Rouge, qui devrait être la prochaine à être convertie? Cela nous permettrait d'avoir une estimation plus précise du CAPEX de conversion pour Bois Rouge. Deuxième question, sur la conversion de Bois Rouge, donc, vous aviez mentionné précédemment que la fenêtre de tir est assez limitée en fait pour effectuer ces travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément au cours de l'année où elle se situe, cette fenêtre de tir, pour qu'on puisse en fait mieux estimer la probabilité que les travaux soient décalé, voilà, un an. Et enfin, troisième question sur le programme de CAPEX que vous avez donc que vous voilà visez entre pour 2023. Est-ce que c'est du CAPEX que vous allez étaler sur une période allant au-delà de 2023, ou est-ce que c'est un CAPEX vraiment que vous allez effectivement effectué au cours de cette période-là? Merci.
Je vais prendre la question. Alors, la question 1, on ne va pas y répondre. Voilà. Privilège. Vous aurez des informations sur l'intensité capitalistique de la conversion de Bois Rouge quand on aura une délibération et un contrat en face. On a déjà donné pas mal d'éléments sur le sujet. On a indiqué que la conversion de Moule 3, c'était de l'ordre de 80 millions. Et Moule 3, c'est une tranche de 38 MW, 40 MW charbon, 100% charbon, qui fait partie d'un complexe qui regroupe Moule 1, 2 et 3. Et Moule 3 a été converti sur la base de la construction d'un dôme au port de 20 000 m3. Mais qui ne sert qu'à alimenter Moule 3. Alors que dans le cadre de la conversion de Bois Rouge, on parle d'une conversion intégrale de Bois Rouge tranche 1, 2 et 3. Donc c'est les 3 d'un coup.
Alors, il faut peut-être pas faire x3 par rapport à l'intensité capitalistique de moule, mais vous voyez bien que les sujets de logistique et notamment d'investissement au port ne vont pas être de la même ampleur, puisqu'il s'agit de convertir 3 tranches et de préparer le terrain, puisque c'est le port, et il n'y en a qu'un à La Réunion, à la conversion du Gol, qui doit être prévu, et il n'y a qu'un stock de charbon pour 2 centrales. Donc l'investissement sur Bois-Rouge, ou une partie des investissements de conversion du site de Bois-Rouge, incluront les investissements dits communs et nécessaires à la conversion du Gol. Voilà les éléments que je peux vous donner sans vous donner de chiffres. Et Julien, tu complètes si tu le souhaites. Hein.
Non, c'est très bien.
Concernant le calendrier de conversion de Bois-Rouge, à ce stade, il n'est pas remis en cause. Mais comme nous sommes des gens très transparents, nous vous disons que si l'administration ou la CRE tarde pour délibérer, à ce moment-là, on devra, compte tenu des délais de purge des autorisations administratives, des délais de consultation de nos fournisseurs, etc., on devra réajuster notre calendrier de conversion. Bois-Rouge, ce sont 3 tranches à convertir. 2 tranches bagasse-charbon et 1 tranche charbon. Donc les tranches bagasse-charbon, elles ne peuvent pas être converties pendant la campagne. La campagne commence fin juin, début juillet et se termine en décembre. Donc vous avez 6 mois de l'année pendant lesquels on ne peut pas convertir 2 tranches. Et vous avez la tranche dite Bois-Rouge 2, qui est la tranche 100% charbon, qui elle peut être convertie n'importe quand, dès lors que les 2 autres ne sont pas en période de maintenance et dès lors que les moyens d'EDF sont tous disponibles. Donc ça laisse plutôt comme fenêtre de tir pour convertir la tranche Bois-Rouge 2, la deuxième partie de l'année. Voilà. Après, je ne vais pas vous faire rentrer dans notre cuisine de calendrier et donc je ne serai pas plus précis que ça. Enfin, sur les programmes de CAPEX jusqu'à horizon 2023, ce que l'on dit depuis de nombreuses années, c'est que le groupe investit entre 100 et 150 millions par an en rythme de croisière. Et vous avez compris que ces investissements dans les prochaines années, ils seront dévolus pour partie à la conversion. Mais ce sont des programmes pluriannuels. Donc il est difficile et on se trompe toujours systématiquement dès lors qu'on veut donner des dates, qui plus est quand on n'a pas d'autorisation, pas de contrat, pas de délibération, pas de financement. Donc on va être prudent, on va dire que l'objectif c'est de convertir les moyens thermiques. On a donné une guidance une fourchette d'investissement à la faveur de la publication de nos résultats annuels. Cette guidance de CAPEX, cette enveloppe de CAPEX sur les prochaines années, elle reste valide et on n'a pas de raison de revenir dessus aujourd'hui, Covid ou pas Covid. Parce que ce n'est pas 3 ou 5 mois ou 6 mois qui remettent en cause la trajectoire du groupe. On est sur des pas de temps longs. Honnêtement, savoir que le contrat conversion va démarrer le 1er juillet ou le 1er septembre, je ne crois pas que ça joue sur la création de valeur long terme.
Merci.
Nous allons prendre la prochaine question de Manuel Turpin, de Société Générale. C'est à vous.
Oui, bonsoir. Merci pour les éléments de réponse. Je voulais revenir sur une des questions de Clémence sur Bois-Rouge. Vos éléments sont très précieux pour nous aider à comprendre les calendriers. Si je comprends bien, probablement nous sommes tous face à une incertitude importante qui est la rapidité des autorités administratives à traiter les dossiers. Il est donc difficile, j'imagine, aujourd'hui pour vous de communiquer vers nous sur des calendriers attendus, pour nous d'estimer ses propres calendriers. Donc il est important de comprendre les jeux de mécano. L'idée industrielle était de commencer par la conversion de la tranche 2 au charbon qui pouvait se faire au second semestre, c'est bien ça? Y a-t-il, avez-vous déjà, merci, avez-vous déjà établi des contacts avec des contracteurs pour ces travaux? Et étant donné cette fenêtre de tir qui se rapproche rapidement, quelle est la date limite, je dirais, de traitement du dossier? À quelle date avez-vous besoin d'une décision CRE pour pouvoir démarrer ces travaux en tout confort au second semestre sur le même dossier, encore une fois, pour comprendre.
Second semestre, c'est pas second semestre de cette année, c'est au cours d'un des prochains deuxième semestres des années qui viennent.
D'accord, très bien. J'imagine que les échéanciers étant très courts pour cette année, nous ne parlons pas de ce projet pour le second semestre 2020, c'est bien ça?
Nous n'avons jamais dit que nous convertirions Bois Rouge 2 en 2020, jamais.
Très bien.
Je crois que l'enjeu, c'est pour faire des travaux et passer les commandes, les premières commandes doivent être passées d'ici la fin de l'année. Hein. Mais les travaux en eux-mêmes seront réalisés au cours des prochaines années, hein, et certainement pas en 2020. Et ça, on n'a jamais dit que le gros du chantier n'a jamais été prévu pour 2020. Hein. Par contre,
je ne voulais pas signifier que c'était prévu. Très bien. Et je vous présente mes excuses pour la candeur de mes questions. Je suis toujours en apprentissage sur le cas d'investissement Aldema. Et globalement, pour finir sur Bois Rouge, l'idée industrielle, c'est de convertir d'abord la deuxième tranche, puis de passer aux tranches qui sont bagasse charbon dans un second temps. C'est bien ça? Ou pas forcément?
Oui, a priori, c'est ça.
Parfait. Je vous remercie.
Merci. La prochaine question vient de Manon Coulon de Erasmus.
Bonjour, merci de prendre ma question. Juste une petite question sur le Brésil et sur le Real. J'entends que votre chiffre d'affaires est peu exposé au Brésil, mais le Real ayant chuté cette année, quelle est votre exposition à celui-ci? Est-ce que vous êtes hedgé et notamment quel est son impact sur votre EBITDA? Merci beaucoup.
Alors, pour resituer les choses, le Brésil représente moins de 5% du chiffre d'affaires du groupe. Sur le premier trimestre, l'impact lié à la dégradation du réal sur notre chiffre d'affaires du trimestre est de 500 000 euros. Donc, sur une année pleine, depuis notre investissement initial en 2013, l'impact maximum qu'on ait eu sur notre chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros. Cette année, avec ce qui se passe, il n'est pas impossible qu'on se rapproche de ce niveau d'impact négatif, même si personne n'en sait rien aujourd'hui, ça vous situe l'ordre de grandeur. Hein. Donc 2 millions d'euros, la plus mauvaise année en dégradation réelle sur un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros pour Aldioma. On considère que le réel est un sujet modeste pour nous. En termes de hedging, on a nos contrats en réel, notre dette en monnaie locale, en réal également. Donc, on a un hedging naturel sur 50 à 65% de l'investissement. Sur le solde, on a envoyé des fonds propres en euros. Et on est un investisseur très long terme au Brésil, avec des contrats de 20 ans. On y est depuis 2013. Il n'y a pas d'instrument magique qui nous couvre sur une telle durée. Et sur une durée moyen terme au Brésil, ça n'existe pas. Donc, on prend notre risque sur la partie fonds propres. Néanmoins, c'est aussi pour cela qu'on vise des TRI au Brésil supérieurs à ceux qu'on pourrait avoir dans les départements outre-mer ou dans le solaire. Il y a une prime de risque par rapport au ROCE dont on a parlé de 11% ou au TRI, on va dire, de 15% que l'on a dans le thermique dans les DOM.
D'accord, merci.
Merci. Encore une fois, si vous souhaitez poser une question, c'est étoile 1. Alors, nous allons prendre la prochaine question de Royaux de Pour Zampar.
Oui, bonjour, Nicolas Royaux pour Zampar. J'avais trois questions de mon côté, justement pour rester sur le Brésil. Est-ce que, comme en France, on risque d'avoir un, un décalage sur les prochains appels d'offres. Le deuxième point, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'ambiance sociale sur les différents territoires sur lesquels vous opérez? Et enfin, est-ce que c'est juste, si on part du principe qu'effectivement il y a 12 millions d'euros d'impact, enfin, chiffre d'affaires variable sur le T1, de dire que le reste, donc les 4 millions, ça correspond à la hausse de la prime fixe? Merci.
Je vais prendre les deux premières questions. Décalage appel d'offres au Brésil, oui, très, très probablement. Vous savez qu'il y a deux fenêtres de tir pour la construction de nouveaux moyens de production sous la forme d'appels d'offres lancés par le gouvernement à horizon 4 ans ou 6 ans, les fameux A-4 ou A-6. Et il est très probable que ces appels d'offres soient décalés compte tenu de la très forte baisse de la consommation, de l'ordre de 8% baisse de consommation au Brésil, et donc phénomène de surcontractation des distributeurs. Pardon pour mon franco-portugais sur le terme surcontractation. Ambiance sociale, elle est bonne. On a des partenaires sociaux qui ont tout à fait conscience du fait qu'on fait partie des opérateurs d'importance vitale et qu'il s'agit d'être au poste en ce moment pour que nos territoires soient alimentés en électricité. Et donc, à ce stade, on a vraiment... rien à signaler de particulier. Et je vais laisser la parole à Julien pour la troisième question. Julien ? Allô ?
Un instant, je vais vérifier que la ligne est toujours connectée. Il paraît que la ligne de M. Gauthier s'est connectée, mais on ne vous entend pas.
Oui, c'est bon. Pas... Oui, allô, bon. Oui, désolé, il y a eu un petit souci de nouveau. Nicolas, vous pouvez reposer la dernière question.
C'était au sujet de l'impact OT1. Donc, vous avez indiqué 12 millions sur la hausse du côté variable. Est-ce qu'on peut en déduire que la hausse de la prime fixe est de 4 millions d'euros?
Tout à fait, je peux même vous donner le chiffre. Il s'agit de la hausse de la prime fixe, c'est de 4,4 millions d'euros sur le premier trimestre.
Très bien.
D'ailleurs, pour être précis, c'est pas la prime fixe, c'est la hausse des primes fixes dans leur ensemble.
Merci. Encore une fois, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer étoile 1 sur votre téléphone. Il ne reste plus de questions pour l'instant.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. Dans ce cas, nous allons mettre fin à cette courte réunion de présentation. Je vous remercie tous de votre attention. Portez-vous bien, bon confinement jusqu'au 11 mai et plus. Et à très bientôt à la faveur d'une prochaine publication du groupe Albioma. Merci à tous.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, ceci conclut la conférence du jour. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher. Excellente journée.